Seigneur, on te remercie pour tout ce que nous avons pu recevoir de toi et t'apporter, pour tout ce que nous avons pu vivre dans ta présence, les uns avec les autres. Merci pour cette image de l'Église, de ton corps. Nous sommes chacun une partie, mais qui prend tout son sens quand les pièces sont rassemblées. On te prie que maintenant tu nous instruises, tu nous enseignes. Tu nous rappelles ta pensée, tu viennes briser notre indifférence, notre égoïsme, notre vue qui est peut-être courte ou limitée, et que tu nous parles, Seigneur Dieu. Amen. Donc on est dans l'Épître aux Romains, ça fait quelques semaines qu'on a fait une pause, hein. On a eu plusieurs choses au milieu, mais on va continuer un petit peu pour ceux qui étaient là ou pour ceux qui se rappellent, et puis pour ceux qui n'étaient pas là et qui ne se rappellent pas, de toute façon. La dernière fois que j'avais partagé sur l'Épître aux Romains, on avait juste développé et établi le fait que nous sommes tous pécheurs et que le péché est grave, parce que c'est lui qui a crucifié Christ, c'est lui qui détruit nos vies, c'est lui qui fait que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et bien sûr, il y a une provision pour ça. Je dis bien sûr, ça aurait pu ne pas être, mais c'est comme ça. Donc on reprend en Romains 3, 23 et 24. C'est des versets qu'on connaît beaucoup, qu'on utilise éventuellement quand on explique l'évangile à d'autres. C'est important pour nous d'y revenir et de se poser ces questions. J'étais touché jeudi soir au cours biblique qu'il y a chez les Pardiales. À la fin du cours, le fils de Luigi est arrivé, nous a rejoint comme ça. Et puis il a commencé de poser des questions. On est resté plus de 45 minutes à essayer de répondre à ces questions. Et c'était lié avec ces choses-là. Il dit, mais voilà, je suis jeune, et comment je peux savoir comment réussir ma vie? Comment pas passer à côté? Comment pas tout rater, quoi. Et puis il avait plein de questions. Et puis il dit, mais il y a tellement de choses qui sont injustes. Il travaille dans un endroit où il y a des gens qui sont en difficulté. Et puis, pourquoi moi j'ai tout et eux ils ont rien, pourquoi... Et puis il se posait beaucoup de questions comme ça. Et puis au bout d'un moment il dit, mais ouais, mais c'est quoi le mode d'emploi, comment on sait, quoi? Puis son père était à côté, il y avait la Bible qui était posée puisqu'on finissait le cours biblique. Puis il dit, tiens, mais déjà avec ça, ça devrait t'aider. Et puis, mais c'était super de voir ça. Et puis j'en reparlerai un petit peu après, mais vendredi soir il y avait l'Assemblée Générale de Croissance Afrique. Alors c'est vrai que personnellement, moi, la première partie qu'il faut faire, hein, mais avec tous ces chiffres, ces choses-là, il faut le faire, mais c'est... Voilà, on attend que ça passe. Hein. Et puis après, on a vu à quoi ces chiffres servaient. Et là, ça devenait intéressant, il y avait plein de choses. Mais notamment, il y a eu le reportage et le témoignage de la jeune fille qui est partie avec Julien au Togo. Donc on avait entendu Julien ici à l'église, et on avait vu déjà comment il avait été touché, hein. Mais alors, d'entendre cette jeune fille-là, à la fin, elle avait les larmes aux yeux, et moi aussi. Et beaucoup de ceux qui étaient là, hein, je pense. Elle nous a dit, ouais, bon, c'était un devoir pour l'école, c'est vrai, c'était intéressant, j'aurais pu faire autre chose ailleurs. Mais c'était surtout un voyage initiatique et surtout un voyage spirituel. Et puis, elle nous a raconté ça, et puis, bon, après, ben, j'ai été discuter avec elle aussi un petit moment. Elle a été tellement frappée par ce qu'elle a vu, quoi. Beaucoup de choses, mais une des choses qu'elle a racontées, elle a été accueillie dans une famille, et puis cette famille, en plus de leurs enfants, ont adopté deux grandes filles de 16 ans. Et puis elle me disait, je voyais ces filles qui ont des grandes ados, et puis ben, elles sont contentes de pouvoir étudier, d'aider dans la maison, d'aller travailler au jardin, et puis elles sont tellement épanouies. Et elle dit, nous on est ici, on dit, j'ai une vie, mais on fait rien, ça n'a pas de sens. Et elle se pose plein de questions, alors bon, priez peut-être pour qu'elle nous rejoigne un mercredi soir chez les Scorano, qu'on puisse en parler avec elle, c'est aussi l'enseignante, et puis on l'a invitée, quoi. Mais ça m'a tellement touché de voir que, ben, on a l'impression que, comment le Saint-Esprit aujourd'hui peut se faire un accès dans les cœurs, quoi, parce que, mais heureusement, bien sûr, on sait que c'est pas vrai, mais on le voit de temps en temps et ça fait vraiment plaisir. Alors, tous ont péché, sont privés de la glorieuse présence de Dieu, dans la traduction du Semeur, Romains 3, 23 et 24. Et ils sont déclarés justes par sa grâce, c'est un don que Dieu leur fait, par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Tous ont péché. Je ne vais pas reprendre ce point longuement puisque je l'avais vu la dernière fois, mais juste de souligner cette intention de Dieu d'enfermer tout le monde dans la catégorie pécheur pour pouvoir proposer à tous sa grâce et son pardon. Il n'y a pas des catégories avec un petit pardon pour les petits pécheurs, un grand pardon pour les grands pécheurs, et puis un peu plus, un peu moins. Mais c'est quand même comme ça qu'on pense, quoi. On a tous l'impression que quand Dieu nous a rachetés, nous, il a quand même fait une bonne affaire. C'est pas comme quand il a racheté lui ou l'autre ou elle, quoi. Avec moi, il y avait quand même du potentiel, il y avait des talents, il y avait ci, il y avait ça. Mais c'est pas lié à ce que nous avons fait ou pas fait. Simplement, nous sommes pécheurs parce que nous ne pouvons pas atteindre la glorieuse présence de Dieu. Et puis, c'est ce qui m'interpellait, je disais, mais qui se lève le matin, moi y compris, en étant tourmenté par le fait que, est-ce qu'aujourd'hui je vais avoir accès à la glorieuse présence de Dieu ? Si on est honnête, quand on se réveille le matin, c'est pas vraiment notre préoccupation, je pense, ou peut-être ça l'est pour vous, je sais pas, mais moi c'est pas naturellement ma préoccupation quand je me réveille, quoi. Mais en même temps, on voit que ce message extraordinaire, qui s'est appelé évangile parce que c'était une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que on était conscient de la mauvaise nouvelle. On n'a pas accès à la glorieuse présence de Dieu. Mais pourtant, on avait été créé pour ça. Et je réfléchissais, et puis c'est vrai que on en parlait jeudi soir aussi, on disait, ben, selon les moments, les endroits, les cultures, c'est vrai que le message est toujours le même. Mais les approches, la façon de le communiquer, etc., est différente. Quand je lis les biographies de Charles Spurgeon, je me dis quel privilège il a eu de vivre à l'époque où il a vécu. Hein. Il explique que il y a eu des difficultés, mais il nous dit la préoccupation principale des gens, c'était où va aller mon âme après la vie sur terre. Pour un prédicateur, rencontrer des gens qui sont troublés par cette question. C'est génial. Hein. Mais aujourd'hui, qui, là aussi, de la même façon que nous, en tant que chrétiens, hein, même, on ne se lève pas le matin en se disant « Est-ce que j'ai accès à la glorieuse présence de Dieu ?» Qui, parmi les gens qu'on connaît dans nos sociétés, se lève le matin en se disant « Quelle est ma destinée éternelle ? Où est-ce que je vais passer l'éternité ?» On ne se pose pas ces questions-là. Et puis, je réfléchissais, je me disais « Mais est-ce qu'on est plus mauvais que nos ancêtres ?» Non, ça c'est clair. Pas mieux, mais pas pire. Est-ce qu'on est plus pécheur ? Non, pas mieux, pas pire, c'est pareil. Hein. Mais malheureusement, il semblerait que notre génération, et ça a commencé un petit peu avant, mais ça s'intensifie, on a utilisé l'intelligence relative, la créativité que Dieu nous a donnée pour fabriquer des moyens d'oublier et de ne pas penser à lui. C'est assez impressionnant. Parce que justement, on voyait ce contraste, ben, on avait ce reportage sur des gens au Togo, et puis ben, ils se posent rapidement les bonnes questions. Ils savent que s'ils tombent malades, c'est pas sûr qu'ils s'en sortent, ils ont tous autour de gens d'eux des gens qui meurent rapidement, aller à l'école, c'est un immense privilège, etc., etc. Manger, quand le soir on se couche en ayant mangé, c'était une bonne journée. Alors, ils sont pas moins pécheurs que nous, ils sont pas meilleurs, ça a rien à voir avec ça. Mais les vraies questions sont là. Mais nous avons utilisé tout ce que Dieu nous avait donné pour trouver des moyens de nous passer de lui, pour ne plus réfléchir, hein, pour fabriquer des anesthésiques. C'est un petit peu comme quand on parlait avec Madame Jacquet, la dame qui va revenir d'ailleurs le 30 novembre, j'en profite sur un petit peu de pub. Elle nous avait parlé sur les dépendances, et puis elle disait que pendant des années, elle a dirigé un centre pour des gens qui vivaient dans la dépendance, et que leur approche, c'était « on peut être délivré d'une dépendance ». Il y a une période de crise, de souffrance, de difficulté, ça demande beaucoup, mais en accompagnant, on peut en sortir. Et puis, comme beaucoup d'autres personnes qui avaient cette approche-là, ils ont été renvoyés, et on les a remplacés par d'autres personnes avec une autre politique. Au lieu d'essayer de se libérer de la dépendance, on donne des produits de substitution. Ça prend moins de temps, ça demande moins de personnel, il n'y a pas de crise. Simplement, avant, j'avais besoin de ma dose d'héroïne, et aujourd'hui, il faut que tous les matins, j'aille à la pharmacie chercher mon cachet de Subutex ou de méthadone. Mais en apparence, ça permet de vivre une vie presque normale. C'est pareil, c'est une dépendance, je suis pas libre. Et pour nous, je trouvais que c'était une image qui m'a interpellé parce que c'est ce que nous faisons. Nous mettons tous les moyens que Dieu nous a donnés ou permis d'acquérir pour cacher notre dépendance au péché et à une vie sans lui. Et c'est assez tragique parce que la plainte, le constat qu'on entend tout le temps, dans tous les âges, tout le temps, dans nos sociétés, c'est j'ai pas le temps, on n'y arrive pas, on est sous le stress, on court, etc. Et en même temps, cette vie, c'est nous qui la fabriquons et qui sommes toujours en train de l'alimenter. Vous savez que j'aime bien la poésie et la chanson française. Et je trouve que souvent, les non-croyants ont une façon de définir le problème qui est plus précise que nous. Et je repensais à, c'est une très vieille chanson, ça, des années 80, quelques morceaux de ce texte de Cabrel qui s'appelle Prendre sa place dans le trafic. Certains connaissent, d'autres pas. Il prend l'image de, vous savez, quand c'est des embouteillages dans une ville et que chacun est là en train d'essayer de prendre sa place dans le trafic. Cette phrase, en tout cas, m'a interpellé. Il parle de sa vie de routine et il dit, Celui que j'ai choisi m'a donné juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Et c'est incroyable parce que c'est notre situation, quoi. On n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on travaille, on travaille parce qu'on n'a pas le temps, et puis parce qu'on veut avoir du temps, et puis et c'est ça, quoi. C'est pas la crise où on se poserait des questions, et c'est pas la liberté où on pourrait faire ce qu'on doit faire. Et puis je vous en lis quelques extraits parce que je trouve que ça décrit bien la vie de l'homme moderne, même si c'est assez vieux comme texte. Le jour se lève à peine, je suis déjà debout, et déjà je promène une lame sur mes joues. Le café qui fume, l'ascenseur qui m'atteint, et le moteur que j'allume m'aident à prendre lentement, prendre ma place dans le trafic. J'aimerais que quelqu'un vienne et me délivre, mais celui que je viens de choisir m'a donné juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Et je reste prisonnier de mes promesses à tous ces marchands de tapis qui me font dormir sur de la laine épaisse et qui m'obligent au bout de chaque nuit à prendre ma place dans le trafic. Je suis un mutin, un nouvel homme, je ne possède même pas mes désirs. Je me parfume aux oxydes de carbone et j'ai peur de savoir comment je vais finir. Je regarde s'éloigner les rebelles et je me sens à l'étroit dans ma peau, mais j'ai juré sur la loi des échelles, si je veux un jour mourir tout en haut, il faut que je prenne ma place dans le trafic. Et j'ai peur de savoir, je sors les refrains, hein. Il y a tellement de choses graves qui se passent dans mes rues que déjà mes enfants savent qu'il faudra qu'ils s'habituent à prendre ma place dans le trafic. C'est assez. Ouais. Voilà. Mais je me disais, c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'on est nous-mêmes piégés là-dedans, quoi. Et en même temps, on n'arrive pas à voir ce qu'il y a de la valeur. Et puis, c'est beau de voir comment Dieu nous fait des clins d'œil. Moi, quand j'entendais ces deux jeunes cette semaine-là, je me disais, mais il faut que je me rappelle ce qui vaut quelque chose, hein, ce qui est important. Mais pourtant, j'ai tellement de produits de substitution, même si je suis pasteur, hein, donc mon métier, normalement, ça serait de m'occuper des affaires de Dieu. Hein, mais ça change rien, c'est pareil que pour vous. Je peux tellement aller d'une activité à l'autre, de préparer un cours, à préparer une visite, à faire un flyer, à préparer un conseil, à faire un PV, etc. Et tout ça fait que je sens pas le vide qui est en moi, je sens pas la dépendance du péché, et donc j'ai pas besoin de ressentir ce manque. Et Dieu dit, mais c'est terrible parce que je peux le remplir. Je peux, pas vous en délivrer pour le restant de vos vies, mais je peux vous donner un moment dans ma présence où vous allez goûter la glorieuse présence de Dieu. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, plus on va la goûter, plus on va être insatisfait avec le reste. Ce qui est souvent compliqué, c'est le travail du Saint-Esprit, alors ça va, mais c'est que quand on parle avec un non-croyant et qu'on lui explique, parce quand même on le sait un peu, hein, que vivre avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, C'est expliquer les couleurs à un aveugle. Il ne connaît pas. Comment il peut savoir que c'est bien? Il est persuadé que ce qu'il a est mieux. Donc là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire, et c'est un mystère. Et puis, il y a plein d'explications théologiques différentes. On ne va pas rentrer là-dedans ce matin. Mais pour nous, en tant que croyants, plus on va goûter combien le Seigneur est bon, et plus on va refuser de prendre notre place dans le trafic. Bien sûr, on va continuer de vivre là où on est, d'aller travailler, de faire ce qu'on fait, hein. Mais on n'est pas obligé d'utiliser toutes ces choses qui sont là pour nous empêcher de penser à lui. Je sais que Anne-Marie qui fait des études en ce moment, mais elle étudie avec des jeunes de 16 ans, quoi. Et puis je me disais, je suis assez, elle était assez, putain, elle connaît là des enfants, mais de voir comment leurs vies sont vides. Mais une de leurs phrases préférées, c'est, j'ai pas le temps, j'ai une vie moi. Ok. Ah ouais, mais j'ai une vie moi. Vous avez fait quoi hier soir? Ouais, on a bu, mais j'ai une vie moi. Et c'est triste, c'est tellement triste. On disait pas ça en se moquant ou pour les accuser, hein, on n'est pas meilleur qu'eux. Hein. Mais cette idée que j'ai une vie. Non, je prends des substituts pour oublier que ma vie est vide, qu'elle n'a pas de sens, parce que la seule chose qui peut la remplir, c'est la glorieuse présence de Dieu. Et je ne le sais pas, ou je le sais, je l'oublie et je ne veux pas le savoir, etc. Quoi. Mais nous sommes déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu fait par le moyen de la délivrance accordée par Jésus-Christ. Et je mettais ça en parallèle avec les paroles de Jésus dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. C'est de ça que nous avons besoin. Et en même temps, c'est ce que nous fuyons tout le temps. Parce que lorsque je vois la vérité, ça me fait peur. C'est un peu comme écouter les informations dans le monde. Alors, je dis pas qu'il faut passer sa vie à les écouter, mais c'est plus facile d'écouter les émissions de divertissement. Parce que quand je vois ce qui se passe et je me dis, mais je suis impuissant, je peux rien changer, c'est lourd, ça me peine, hein, penser au tout ce que les chrétiens souffrent en Syrie et ailleurs ici, et puis même les non-chrétiens, bien sûr. Hein. Plus facile de prendre un comprimé pour oublier. Quand j'ai un comprimé, on se comprend. Hein. Une activité autre, quelque chose qui fait que je pense pas à ça. Mais pourtant, ce dont nous avons tous besoin, nous, les autres, et les jeunes et les vieux, c'est d'accéder à la glorieuse présence de Dieu. Et ça, c'est possible parce que Christ a fait ce qu'il fallait pour que Dieu nous déclare par grâce juste. C'est extraordinaire, ces choses-là. Mais je vous dis ça, ça me touche un peu, mais je ne le réalise pas vraiment non plus. Et je sais que demain matin, quand je vais me réveiller, ma préoccupation, ça sera faire monter, pas le café pour moi. Hein, ni la lame sur les joues, non, j'ai évité ça. Mais quand même, prendre ma place dans le trafic, que la semaine, survivre à la semaine qui commence, c'est horrible de penser comme ça. Mais notre défi, comment dans ce monde de fous, comment dans ce trafic où on est obligé de se déplacer parce que c'est le monde dans lequel on vit, comment on peut avoir accès à la glorieuse présence de Dieu? Ben, il est là. Et c'est pour ça que je crois que ces moments qu'on vit le dimanche matin ou le dimanche soir ou le mercredi ou le jeudi ou le mardi, peu importe, hein, c'est pas une option, c'est pas pour faire plaisir aux statistiques, c'est pas parce que ben, comme ça Dieu sera content, j'ai fait ma part et puis il me fout la paix le reste de la semaine, mais c'est vraiment indispensable. Sinon, on perd l'image de vue. Hein, l'illustration qu'a trouvée Catherine est vraiment superbe, j'aime beaucoup. Parce que toute la semaine, quand je suis seul avec ma pièce, lundi ça va, mardi, mercredi, elle représente quoi cette pièce? C'est un demi-cercle un peu tordu, un peu gris, ça n'a pas de sens. Et j'ai besoin de trouver des moments où on revient, et chacun amène sa pièce tordue qui n'a pas de sens, et on les met ensemble. Et, ah si, oui, il y a une belle image derrière. Ça s'appelle l'Église, c'est l'idée de Dieu, c'est pas la mienne. Hein. On a besoin de ça, mais on doit avoir cette compréhension pour que ce qu'on fait, ce qu'on vit, nos décisions, nos choix, la façon dont on établit nos priorités, elles aient une vraie raison. Et pour ça, ben, acceptons de faire face au vide, acceptons de faire face à la douleur, à la difficulté, à l'absence dans nos vies. Au lieu de prendre des produits de substitution, il y en a tellement, on a que l'embarras du choix, on pourrait passer notre vie à les essayer, et on n'arriverait pas à faire le tour. Et puis affronter ça en disant adieu, mais non, je veux pas autre chose, même si c'est désagréable 5 minutes ou un peu plus, je veux avoir accès à ta présence. Et si je dois aller dans le trafic, parce que je vais y aller, je veux y aller avec toi. Et puis je veux t'amener avec moi. Mais je reviendrai dans la maison de l'Éternel, qui n'est pas un lieu, hein, qui est la communion avec les autres, parce que j'ai besoin de nouveau d'être encouragé, ressourcé, de revoir l'image, et puis je vais repartir dans le trafic. Et puis, on va faire ça, c'est nos vies. Alors, encourageons-nous les uns les autres, profitons de ces moments pour nous approcher de Dieu, pour goûter sa présence, pour que ça change nos priorités, et puis pour pouvoir répondre aussi, ben, aux gens comme cette jeune fille qui disait, mais j'ai rencontré autre chose, je sais pas exactement quoi, mais il y a autre chose. Et puis, qu'on puisse avancer ensemble dans cette direction. Seigneur notre Dieu, merci parce que même si nous ne le réalisons pas complètement ou très peu, la gloire de ta présence est la meilleure chose pour nos vies. C'est ce qui donne du sens à tout le reste, à nos vies de famille, à nos vies professionnelles, à nos vies relationnelles, à nos vies affectives, à tout ce que nous vivons. Viens nous remplir encore de toi, viens nous aider à aller au-delà de notre faiblesse pour nous approcher de toi, Seigneur. Et merci pour ce moment ce matin où tu nous fais la grâce de pouvoir le vivre ensemble. Merci pour ce que Christ a fait parce que c'est pour ça que nous sommes déclarés justes et que nous pouvons le vivre ensemble. Et conduis-nous encore dans tout le reste de cette journée, dans ce que nous allons partager avec nos familles, avec nos amis, avec nos frères et sœurs. Et puis que nous puissions t'inviter dans nos vies tout au long de cette semaine, quelles que soient les situations. Que tu sois vraiment celui qui illumine nos jours, Seigneur.